bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bon, ben je crois qu'on est parti. Bienvenue à tous sur le podcast. Je suis avec Julien Vénesson. Bonjour Julien.
Salut Jérôme.
Ouf, quelle voix, voix charismatique.
Oh non, non.
je suis très content de t'avoir sur le podcast. Et je ne te l'ai pas dit en off juste avant qu'on démarre l'enregistrement. Et je voulais en profiter pour le dire en direct live. Parce que tu es quelqu'un que je voulais avoir sur le podcast, dont je voulais discuter avec toi depuis très longtemps, depuis pas mal d'épisodes. Et j'ai attendu, je sais pas pourquoi j'ai attendu avant de t'envoyer cette invitation et de te proposer de venir sur l'émission. Peut-être je voulais avoir un peu de substance, je voulais avoir un petit peu plus d'expertise, une espèce de notoriété pour pouvoir t'inviter. Parce que je te suis depuis très longtemps quand même, ça fait quelques années, même pendant mes études d'ostéo, je pense, j'avais commencé à regarder ce que tu faisais et surtout tes bouquins. Et on va en parler, on va parler de plein de trucs. Mais on va commencer tout gentiment. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Ouais, bah merci, c'est très gentil pour ton petit message. Je précise d'ailleurs à nos auditeurs que juste avant, on s'est un peu entretenu pour savoir comment est-ce qu'on allait structurer intelligemment ce podcast pour en faire quelque chose de passionnant et d'intellectuel, etc. Et on en est venu à la conclusion qu'on n'allait rien faire du tout et qu'on allait tout improviser.
Et que ça va être spontané.
Voilà, voilà, c'est pour que nos éditeurs le sachent. Julien Vénesson, je suis un autodidacte touche à tout, je dirais ça comme ça. Journaliste, auteur, journaliste indépendant, je précise, parce qu'aujourd'hui, journaliste, ça n'a pas toujours une bonne connotation.
Tu fais bien de le préciser, ouais. Surtout dans ce milieu, dans le milieu un peu de la nutrition, de la santé.
J'ai l'impression que là, aujourd'hui, journaliste, il n'y a plus beaucoup de domaines dans lesquels c'est bien vu. ça devient un peu compliqué. Mais bon, auteur de livres, formateur en nutrition pendant pas mal d'années pour les professionnels et coach sportif, tout ça. Entrepreneur aussi, puisque maintenant j'ai plusieurs sociétés, et notamment un laboratoire de compléments alimentaires.
Unae.
Voilà, Unae.
Unae.
Unae. Qui veut dire qui est dérivé du mot en latin, ça veut dire unique. Unae, pour les okay, personnes parfait. Qui me demandent.
Donc, tes bouquins les plus lus, peut-être les plus reconnus, enfin, ils sont tous. Je les ai pas tous lus. Hein, je plaide coupable. Par contre, la nutrition de la force et la nutrition paléo. J'ai plus le titre exact.
Paléonutrition.
Paléonutrition, voilà, sont quand même des références. Pour tout sportif qui cherche à avoir les premières bonnes connaissances en termes de nutrition, à la fois sportive, à la fois santé, ça couvre... Je pense qu'en lisant rien que ces deux, déjà, ça couvre quasiment tout ce qu'on aurait besoin de savoir.
En tout cas, ça dépend quel est l'objectif et ça dépend de la personne, je dirais quand même, parce que c'est quand même pas adressé, ces deux livres sont pas adressés aux mêmes personnes. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débarque dans la nutrition, qui a pas de problème de santé particulier, et qui veut en apprendre plus, Nutrition de la force, c'est vrai que c'est un peu un pilier d'une certaine manière. Hein. C'est un livre toujours qui se vend toujours autant, qui est vraiment un basique. C'est un basique.
Bon, on va commencer direct là. Moi, j'ai envie de savoir. Ton avis sur la consommation de la viande et surtout le véganisme non, je vais te titiller là-dessus pour démarrer. Est-ce que tu es toi-même vegan ?
Alors non, moi je suis pas vegan. Par contre, on peut dire que je suis, allez, bah, pour utiliser les termes modernes, je suis plutôt flexitarien. Techniquement, de la viande, nous, on n'en mange pas, quasiment pas, à peu près maximum une fois par semaine. Et puis ça va plus être dans l'occasion de sortie, de dîner avec des amis, des choses comme ça. Mais au quotidien à la maison, on mange pas de viande. Y a plusieurs, pas mal de raisons à ça. C'est pas forcément, en toute sincérité, c'est pas forcément la problématique du bien-être animal, parce que cette problématique, elle n'est pas limitée à la viande, évidemment. Elle se retrouve aussi dans le poisson, ou dans les œufs, par exemple, en fonction des œufs qu'on achète. Donc c'est un problème général. Mais c'est vrai que nutritionnellement, la viande subit beaucoup. L'impact des méthodes d'élevage en fait sur sa qualité. Et puis moi gustativement par rapport à quand j'étais petit, je trouve que la viande est beaucoup moins bonne aujourd'hui qu'auparavant. Ça me pose problème. Et puis par ailleurs, on sait aujourd'hui que eh bien dans les viandes qui sont issues des élevages intensifs, des choses comme ça, on retrouve des déchets bactériens, d'antibiotiques, de choses comme ça qui peuvent amener à des problèmes de santé. Par exemple, la consommation de poulet issu d'élevage intensif, ça peut provoquer des infections urinaires chez la femme, par exemple.
D'accord. Ok. Tu habites dans une région en campagne ou t'es en ville, toi?
Ben, j'ai habité à Paris pendant 10 ans, donc j'ai quitté la maison familiale vers 18 ans pour mes études. Donc je suis allé à Paris pendant 10 ans, et puis ensuite j'ai rencontré ma femme, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, mais à un moment donné, en fait, la petite histoire, c'est qu'on voulait s'acheter un appartement à Paris. C'était un grand 2 pièces. On avait même trouvé quelque chose avec un petit jardin pour la modique somme de 440 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est déjà quand même une somme assez significative. Et puis on est parti en vacances dans la Nièvre voir de la famille à elle. Et quand je suis arrivé dans la région, j'ai vu une région magnifique, vraiment très sauvage. Et puis, je voyais les petites maisons, les gens qui avaient leurs petits potagers, etc. Donc, je trouvais ça, j'avais l'impression d'être dans un endroit un peu hors du temps, hors de la France. C'était un peu particulier. En plus, c'était un bel été, on va dire, pas trop chaud. Et puis, dans la maison dans laquelle on était, je commence à poser un peu des questions aux gens qui étaient là. Et puis, il y avait un magnifique jardin avec des fruits et légumes. C'était un peu le jardin d'Éden, on avait l'impression. Et puis, une maison très grande, très belle, en pierre, une vieille maison comme ça. Et puis, alors, je leur ai demandé combien ils l'avaient acheté par curiosité. Puis là, ils me disent, oh, bon, on l'a acheté 100 000 euros à peu près. Alors là, je suis complètement tombé sur mes fesses, quoi. Puis finalement, je suis allé voir Émilie et puis je lui dis, mais t'es sûr que tu veux qu'on achète quelque chose à Paris? En fait, regarde, on réfléchit, on pourrait s'acheter une belle maison à la campagne, donc on n'a pas besoin d'aller à Paris pour notre boulot. Et puis on se prend un studio à Paris, comme ça, si besoin, on doit revenir à Paris, on pourra toujours le faire. Puis on a acheté une maison à la campagne, puis on n'a jamais rien acheté à Paris. Et on est resté à la campagne.
Ben voilà, ben, de toute façon c'est ce qui arrive souvent en plus, hein. Et ça t'a pas encouragé au départ quand t'es arrivé à justement voir ce qui se faisait en termes de des producteurs, les producteurs du coin, le boucher, les trucs, tu vois, parce que tu parlais de la viande un petit peu industrielle, et c'est souvent ce qu'on dit, c'est que quand t'es à la campagne, t'as quand même beaucoup plus facilement accès à des produits de qualité qui sont élevés par des personnes qui sont passionnées, qui sont pas là pour faire du travail à la chaîne, tu vois, le bon poulet de campagne, etc.
En fait, il y a deux problématiques. Il y a d'une part le véganisme au sens précis du terme. Le végan, il en a un peu rien à faire normalement de savoir si ton poulet ou ta vache, elle est élevée dans des belles conditions ou dans des mauvaises conditions. Pour lui, ce qu'il considère, c'est que la problématique, c'est le fait d'élever un animal pour le manger et pour le tuer. C'est ça qu'il considère comme étant une problématique. Donc en ce sens, si tu veux, le fait d'être à la campagne avec effectivement des agriculteurs qui font des petites exploitations, ça résout pas le problème auquel s'adresse le véganisme pur. Moi, je suis pas végane, encore une fois. Oui, ici, maintenant, je connais beaucoup d'agriculteurs, effectivement, qui font des petites choses locales que j'achète. Et puis certaines que je revends, d'ailleurs, l'huile de cameline qu'on a chez Unae, C'est une fabrication d'un agriculteur local, donc c'est une toute toute petite production, donc on a très très peu de bouteilles, mais c'est un produit très qualitatif. Et puis, non, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu discuter avec beaucoup d'agriculteurs sur comment ça se passait concrètement, parce que quand on habite en ville, en fait, on est très déconnecté, on se rend pas compte. Mmh. Déjà, on est déconnecté de toute façon des questions de vie animale, même de biodiversité. Je veux dire, quand vous voyez un pigeon et puis un chat dans une rue, vous n'êtes pas vraiment sensibilisé à la problématique de la disparition des oiseaux, des abeilles, des choses comme ça. Alors que quand vous avez un jardin et que le printemps, y a toute cette vie qui arrive, quand vous voyez que cette vie, elle disparaît ou qu'elle diminue, vous vous en rendez compte, en fait, et on prend vraiment conscience du problème. Pareil, hein, un exemple vraiment classique, un peu emblématique, c'est quelque chose qu'on entend parfois, c'est les gens qui disent que quand ils prennent leur voiture, maintenant, au printemps ou en été, ils ont très peu de moucherons sur leur pare-brise par rapport à quand il y a 20 ou 30 ans. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément constater quand on est en ville, parce qu'on prend pas sa voiture tous les jours, enfin normalement, en tout cas si on est intelligent, on prend pas sa voiture tous les jours pour aller faire les courses ou pour aller au travail. Donc, paradoxalement, la voiture peut permettre de se rendre compte de certaines choses liées au mode de vie, enfin à notre environnement, quoi. Donc, toujours est-il que j'ai rencontré pas mal d'agriculteurs, dont notamment un en particulier qui est près de chez moi, qui est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un monsieur qui maintenant est à la retraite, hein, mais qui donc l'exploitation a été reprise par son fils, qui poursuit son travail. Et lui, c'était quelqu'un qui habitait en région parisienne et qui a toujours eu le rêve d'être paysan. Alors, pour lui, le mot paysan, d'ailleurs, est particulièrement important parce que paysan, c'est différent de agriculteur ou éleveur. Le paysan, c'est quelqu'un qui, à l'origine, lorsqu'il a une ferme, eh bien, il crée un écosystème dans sa ferme, qui est un écosystème qui a du sens et où les animaux ont un rôle, en fait. Donc, par exemple, les vaches avec lesquelles on va utiliser le lait pour faire du fromage, eh bien, on va bien sûr utiliser le lait pour la crème, etc. Mais elles vont aussi permettre de fabriquer du compost avec leur déjection qu'on va pouvoir ensuite épandre sur les cultures pour faire pousser les céréales et faire pousser les légumes dans le potager, etc. etc. Donc, c'est tout un écosystème où les animaux sont tous nécessaires pour que ça fonctionne bien. Donc, il y a des poules. Chez lui, tous les animaux ou presque sont un peu en liberté, à part les gros ruminants, il y a quand même des clôtures, mais quand on rentre dans sa ferme, c'est assez marrant de voir les canards, les poules, enfin tout le monde est un peu là au milieu, les chats, etc. C'est assez mignon. Et c'est vraiment un homme qui aime les animaux. Donc j'ai vraiment beaucoup parlé avec lui parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal il y a quelque chose qui mérite de la réflexion dans la notion de véganisme. Tout le monde se pose la question. Est-ce que si je mange de la viande, ça veut dire que j'aime pas les animaux? Ou est-ce que je peux manger de la viande en aimant les animaux? Mais alors, si j'aime les animaux, comment est-ce que je peux accepter qu'on les tue pour pouvoir les manger? En fait, ce sont des vraies questions. Et moi, ce que je pense en discutant avec ces gens-là, c'est que, en fait, la mort est un peu inéluctable pour tout le monde, hein, d'ailleurs, et pour les animaux aussi. Et si on a ce système de paysannerie qui fonctionne bien, qui permet de faire pousser beaucoup de légumes en permaculture sans utilisation de pesticides, etc. On est obligé d'avoir des animaux. Avoir des animaux, ça veut dire qu'ils vont forcément, dans certains cas, mourir ou être malades. Et ça veut dire aussi qu'on va être obligé de les tuer. Et lui, c'est dans ce genre de situation que, s'il tue un animal, il va le manger, il va pas le mettre à la poubelle. Donc, c'est une forme de logique. Et tuer un animal, c'est pas quelque chose d'anodin. Alors c'est quelqu'un qui est assez engagé, hein, dans le sens où aujourd'hui, si on est un agriculteur, un éleveur, on peut pas, par exemple, tuer un animal soi-même. On est obligé de l'amener dans un abattoir industriel. C'est la loi. C'est interdit de faire autrement. Donc lui, il a parfois bravé cette loi parce qu'il trouvait ça que c'était un petit peu effectivement pas respectueux par rapport à ces animaux que les emmener à l'abattoir. Parce que la réalité, c'est que quand on a une relation avec, par exemple, ces vaches, lui il m'a expliqué que c'est arrivé. Que les vaches, elles ne voulaient pas monter dans le camion, elles voulaient pas partir de là où elles étaient pour mourir. Alors, est-ce qu'elles comprenaient de quoi il était question? Mais c'était pas forcément évident. Alors que quand c'est à la maison, ça se passe beaucoup mieux. Je pense que c'est une situation qu'on peut comprendre même par rapport à notre vie d'être humain. Quand on voit des personnes âgées qui sont seules ou qui vont aller mourir à l'hôpital entourées d'autres personnes âgées qui sont en train de mourir. En sachant que pour les animaux, les conditions dans les abattoirs sont absolument horribles. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de stress, il y a l'odeur du sang. Même si vous tuez les animaux correctement, c'est-à-dire en leur limitant leur souffrance, vous les placez dans un état de stress, quelque chose qui est un peu immoral. Le simple fait de monter dans un camion où elles sont, les vaches, elles sont debout, elles n'ont pas d'eau, elles n'ont pas de place, etc. Les trajets peuvent être très longs. C'est la maltraitance, c'est inadmissible. Ça, ça devrait pas exister. Mais c'est tout le système qui a un problème, parce que la notion d'abattoir industriel, que j'explique à l'instant comme étant indispensable, c'est quelque chose de nouveau. Ça n'a pas toujours existé. Hein. Il m'a expliqué que auparavant, en fait, il y avait des petits, abattoirs de village. Et en fait, les petits abattoirs de village, ils ont été rachetés par des grandes sociétés, des sociétés qui ont grossi et qui sont devenues des très grosses sociétés qui sont maintenant les abattoirs industriels. On a éliminé. C'est un petit peu comme comme les magasins. On a éliminé les petits magasins pour faire des grands centres commerciaux. Et ce faisant, eh bien, on a laissé de côté encore plus le bien-être animal, le respect de l'animal et le fait de ne pas considérer la mort comme quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. C'est quelque chose qui fait partie de nous et le fait d'y être confronté, c'est un moyen aussi d'apprendre à la respecter et aussi de mieux considérer la vie, en fait. Et le fait est que quand vous, les animaux vont des abattoirs, tout ça c'est caché, on ne voit pas, même quand on achète l'animal, donc les parties de l'animal en magasin, tout est sous plastique, tout est aseptisé, donc on est complètement déconnecté de cette réalité, alors que cette réalité, elle existe.
Ouais, bah c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça met en perspective là effectivement les différentes façons de voir les choses entre est-ce qu'il faut pas manger de la viande, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique. Et
moi, je pense pas qu'il y ait une réponse absolue à cette question. Elle est quand même assez individuelle en réalité, cette réponse.
Mais c'est ouais, voilà, cette réponse est individuelle. Et est-ce que une des manières de répondre à, en tout cas, d'avoir une piste de réflexion sur cette thématique, ça serait pas de se demander, et je vais te le demander justement, est-ce que parce qu'on voit de tout, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'homme, il est fait pour manger de la viande ou il n'est pas fait pour manger de la viande? Et pour aller un petit peu plus loin, il y a cette histoire de longueur du tube digestif. On en a entendu tous parler. Il y en a qui disent non, on est fait pour manger de la viande parce que notre tube digestif, il est fait pour digérer les acides aminés, etc. etc. Et d'autres qui disent non. Alors, c'est quoi la réalité dans tout ça?
Je pense que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'expose la question, en fait. Je vais essayer d'expliquer ça de façon un peu plus précise. C'est des choses dont j'ai beaucoup parlé dans mon livre Paléonutrition sur l'aspect évolution et biologie. Donc si d'abord on se réfère uniquement à la question évolution, biologie, génétique, corps humain. Dans ce cadre-là, on sait que oui, l'être humain a un tube digestif qui est adapté à la consommation de viande. On a un tube digestif qui est très particulier, qui est différent de celui des singes, de celui des carnivores. On a quelque chose qui est un peu entre les deux. On a un tube digestif qui est adapté à manger des aliments plutôt cuits, notamment les produits carnés. On a un tube digestif qui est plus long que celui d'un carnivore. Le carnivore a un tube digestif qui est très court pour éviter justement une fermentation de ces produits animaux qui peuvent contenir des bactéries. Notamment, on voit un carnivore dans la nature, parfois il peut trouver de la charogne, il peut trouver des restes qui sont là depuis longtemps, donc il ne faut pas qu'il meure évidemment en mangeant tout ça. Donc son tube digestif est très court, hein, c'est le chat par exemple typiquement, pour éviter toute contamination bactérienne, que ces aliments transitent suffisamment vite au sein du tube digestif. Donc nous, c'est plus long chez nous. Donc si on mange de la viande faisandée qui n'est pas cuite, il y a de très fortes chances qu'on tombe malade, voire qu'on décède. Par contre, l'herbivore, par exemple, lui, c'est un tube digestif qui est beaucoup plus long, avec en plus parfois plusieurs estomacs pour fermenter de façon extensible les produits végétaux comme l'herbe, les feuilles, etc. D'ailleurs, on a, c'est une parenthèse, mais bon, certaines personnes qui pensent que oui, alors donc on serait éventuellement, selon eux, frugivore ou crudivore, donc il faudrait manger que des fruits et des légumes, sauf que c'est pas exactement comparable, parce que si vous prenez le cas par exemple d'un animal qui mange principalement donc des feuilles, donc beaucoup de fibres, il va fermenter ces fibres et il va les transformer en lipides. Et à la fin, ce qui va surtout absorber au niveau de son tube digestif, c'est des graisses.
Okay. Donc, ça, si ça on veut, son, ça va être son carburant pour d'énergie.
Exactement, exactement. Donc, si on veut avoir une alimentation qui est comparable à celle d'un herbivore, nous, ça voudrait dire en fait qu'il faut qu'on mange directement beaucoup de graisses et non pas beaucoup de végétaux. Donc, encore une fois, c'est absurde. Mais bref, effectivement, notre tube digestif, il est fait pour consommer de la viande. Ensuite, sur le plan, nutrigénétique, on est aussi adapté à manger de la viande parce qu'il y a des nutriments, à la fois certains sont essentiels, d'autres sont semi-essentiels, qu'on ne peut retrouver que dans les produits animaux et qui sont indispensables à une bonne santé. Par exemple, la vitamine B12, la carnitine, la taurine, la choline, ces aliments-là, ces nutriments-là sont très importants. La glycine également ou le collagène, on peut pas avoir une santé optimale si on les obtient, si on les a pas dans l'alimentation. Ça veut pas dire que si on les a pas, on va mourir. Hein. Ça veut juste dire qu'on n'aura pas une santé optimale. Maintenant, la question que tu m'as posée, c'est pas celle-ci. Enfin, c'est pas que celle-ci. C'est aussi de savoir si tu m'as demandé s'il fallait qu'on mange de la viande ou pas. C'est pas parce qu'on est fait pour faire quelque chose qu'il faut le faire. D'une certaine manière, si tu me demandes si je suis fait pour tuer mon voisin. Bah, techniquement, j'ai deux bras, deux jambes, je sais me servir d'un couteau ou d'une arme à feu, donc je peux tuer mon voisin. Est-ce qu'il faut que je le fasse?
Est-ce que implicitement, tu as pas déjà plus ou moins répondu à cette question quand tu as dit que en fait on pouvait se passer de la viande au final, mais que on allait pas être en santé optimale?
Bah oui, mais en fait, si tu veux, justement, c'est là où je voulais en venir ensuite. C'est que le fait d'être fait pour quelque chose ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça, c'est le premier point. C'est un point un peu simple, on va dire. Le deuxième point, c'est de dire oui, mais effectivement, comme tu viens de dire, on a besoin de ces produits animaux puisqu'ils contiennent des nutriments essentiels. Eh ben oui et non. Alors pourquoi oui et non? Parce que l'homme est un animal doué d'intelligence qui utilise son cerveau, la science, au profit de son évolution et de sa survie. Un exemple frappant de ça, c'est qu'on a réussi à coloniser des espaces de vie très au nord de la Terre, donc dans le froid, avec des ensoleillements très différents, des longueurs de rayons UV très différents que ceux qu'on va trouver par exemple auprès de l'équateur ou même en France. Et donc, par exemple, dans les pays du nord, donc Finlande, ou même où tu te trouves d'ailleurs, les rayons UV vont pas avoir une intensité identique à ceux qu'on a ici. Et la conséquence de ça, c'est qu'au niveau de la peau, on va pas synthétiser de la vitamine D de la même manière. Et la vitamine D, c'est une vitamine, donc par définition, elle est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et à de nombreuses fonctions. Et on ne peut pas vivre sans vitamine D. Et on a réussi à survivre dans les pays nordiques, soit en consommant certains aliments qui étaient naturellement très riches en vitamine D, qu'on a appris à découvrir au fil du temps, donc par exemple le foie de morue, soit grâce à la technologie en développant des compléments alimentaires de vitamine D, qu'on a donné et qu'on donne toujours à toutes les personnes qui habitent dans ces pays nordiques. Mmh. On leur donne aussi souvent de la vitamine A. Et tout le monde trouve ça normal de prendre de la vitamine D. Par contre, quand on dit aux gens, ah bah attention, si vous voulez être vegan, il faut que vous preniez un complément alimentaire de vitamine B12, un complément alimentaire de glycine, de carnitine, de taurine, par exemple. Les gens qui sont pas vegan, ils vont vous dire, ah ben non, mais moi, je veux pas être dépendant de la prise d'un complément alimentaire. En fait, c'est pareil. Que tu sois vegan ou omnivore, si tu cherches vraiment une bonne santé. Le fait est que le mode de vie moderne, l'endroit où on vit, la plupart d'entre nous, fait qu'on a besoin d'un minimum de compléments alimentaires. Le plus élémentaire pour tout le monde, c'est la vitamine D. On le donne d'ailleurs dès la naissance aux nourrissons, aujourd'hui à l'hôpital, et les pédiatres en prescrivent, au moins jusqu'à l'âge de 10 ans. Et c'est pareil pour les adultes, il faut en prendre. Et donc, le raisonnement peut s'appliquer aussi à des nutriments qu'on trouve dans les produits animaux si on souhaite s'en débarrasser. C'est pour ça que, comme je te disais, on est adapté, on est fait pour manger des produits animaux, mais il est possible, techniquement, d'avoir une santé optimale tout en supprimant les produits animaux. C'est possible. Voilà.
Mmh. Ouais, aujourd'hui, c'est devenu possible avec la complémentation.
Voilà, c'est possible, c'est possible. C'est pour ça que, pour moi, c'est un petit peu nul de réduire le débat à juste la question de savoir si on peut ou pas, ou si on peut pas. C'est trop simpliste comme notion.
Ouais, puis ça demande, tu vois, ça demande beaucoup de il y a beaucoup de paramètres en jeu, comme tu le dis, parce que la localisation géographique y joue son rôle aussi, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément en tête dès la première réflexion, quoi.
Bien sûr. Et puis, il y a encore un autre paramètre. C'est que là, on a parlé du paramètre je dirais, peut-être un peu social, du paramètre moral, du paramètre nutritionnel, mais on n'a pas parlé du paramètre politique. Si on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que il y a un problème avec les abattoirs industriels, les élevages intensifs, etc., etc. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on veut améliorer les choses, sachant que améliorer les choses n'implique pas forcément de devenir végane. Comment on fait pour améliorer les choses aujourd'hui? Qui est porteur d'un projet pour dire effectivement il faudrait que on arrête les abattoirs industriels, qu'on revienne à des petits équarisseurs dans les villes, des petits abattoirs ou des abattoirs mobiles par exemple. Enfin, si, il y a quelques personnes qui militent pour l'abattoir mobile, mais bon, ce sont des voix qui sont tellement faibles, tellement petites que ouais, c'est compliqué. Exactement. Et si on regarde en tout cas historiquement la politique, les changements sociétaux, bah, ce qu'on constate, c'est que quand même, quand il y a eu des, ce qui a déclenché des changements, bah, c'est toujours, c'est très souvent de passer par un extrémisme au départ. Hein, malheureusement, les hommes, je pense, sont beaucoup trop bêtes dans leur ensemble pour pouvoir être capables de faire des changements effectifs dans leur quotidien pour que vraiment les choses bougent. C'est exactement comme l'écologie. Moi, je suis beaucoup concerné par ça. J'essaye donc mes compléments alimentaires de mon laboratoire ont une particularité justement, c'est d'être très écologique. Et j'essaye, dans le quotidien de faire attention à pas mal de choses parce que je suis sensible à ça, à la nature. Beaucoup de gens le sont pas, mais la réalité, c'est que c'est pas parce que moi, dans mon petit village, je fais des choses que la planète Terre va s'en porter mieux. C'est sûr que c'est bien déjà que de faire des petites choses individuelles, c'est même indispensable. Mais est-ce que c'est suffisant? Si vous avez 100 crétins qui font n'importe quoi et qu'à côté vous en avez 10 qui font les choses bien, c'est très bien, c'est sûr, on est dans un sens positif, mais à l'échelle de la planète, c'est pas suffisant. Moi, malheureusement, je suis pas très très optimiste sur la suite hein, à ce sujet. Hein. Je pense que pour beaucoup de choses, l'homme a besoin que les choses s'effondrent ou se cassent complètement la binette avant de vraiment réagir. Parce que on a un côté un peu bête. On a une très grande difficulté, en fait, à voir au-delà du présent. On est très à regarder ce qui se passe aussi aujourd'hui, maintenant, dans 24 heures, combien je vais gagner à la fin du mois, qu'est-ce que je vais faire le mois prochain quand je vais avec mes enfants, ou je sais pas. Enfin, on n'est pas très, très, dans l'ensemble, je veux dire. Puis ça s'arrange pas parce qu'effectivement, au niveau politique, on n'est pas là pour nous aider à nous élever, hein, on va dire.
Ça se saurait.
En ce sens, je comprends le véganisme aussi en tant que mouvement politique, en tant que mouvement du changement. Et peut-être que il faudra peut-être en passer par là ou par de plus grandes catastrophes, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, hein, le fait que les élevages intensifs permettaient à des bactéries, des virus d'aller impacter la santé publique. C'est particulièrement le cas des virus de la grippe. Hein. La plupart des virus de la grippe sont nés dans des élevages industriels où il y a des cohabitations de populations de canards, de porcs, etc., qui s'échangent des virus de la grippe, qui mutent ensuite et qui sont transmis à l'être humain. Et c'est ce qui fait en général les pandémies de grippe, surtout les graves. Donc, y a des problèmes de sanitaires aussi très importants par rapport à tout ça. Donc, peut-être qu'un jour, si on a un Covid-24 beaucoup plus dangereux qu'un Covid-19, peut-être que on prendra des mesures, on réfléchira un petit peu à d'autres choses. Je veux dire, techniquement, la version officielle, juste pour finir là-dessus, sur le Covid-19, la version officielle, donc, c'est que c'était dans un marché aux animaux sauvages. Et qu'est-ce qui a été dit? Apparemment, c'était de dire bon ben on arrête la vente, je sais plus de quel tel animal ou je sais pas quoi. Il y a pas eu une prise de conscience générale de se dire ah oui mais c'est peut-être complètement con ce qu'on est en train de faire en fait avec les animaux sauvages.
Et c'est intéressant, j'ai entendu justement récemment sur sur une interview je crois que le fait qu'il y ait de moins en moins d'espèces, qui est une diminution comme ça, une raréfaction des espèces animales, fait que un virus passe beaucoup plus facilement de l'animal à l'homme, quoi. Qu'il y a beaucoup moins de transition entre plusieurs animaux, qui fait qu'au bout d'un moment le virus il finit par disparaître et s'estompe. Et là, il passe plus rapidement de l'animal à l'homme. Donc ça se rejoint.
C'est possible.
La chaîne de Rob en plus que j'ai entendu ça. C'est le médecin qui en parle. Donc bon, bouclé. je veux quand même revenir parce que c'est tout, très intéressant, tu vois, faire le parallèle entre la consommation de viande, entre la politique, entre les conditions actuelles aussi du Covid et ce qui se passe. On pourra en parler des heures. Hein. Et j'ai envie quand même de prendre le sujet au vol parce que tout à l'heure, tu as parlé donc du fait que certains animaux utilisaient les fibres et une fermentation pour créer des lipides et que c'est ce qui leur servait de carburant, d'énergie pour qu'ils fonctionnent. L'homme, les carburants... Alors, quand je dis les carburants, c'est l'énergie, en fait. Ce qui fait qu'on peut l'aliment qui va être... Tu vas le dire beaucoup mieux que moi, mais l'aliment qui va être transformé dans le corps en énergie, qui va permettre de bouger, qui va permettre de faire les activités. Ça provient donc des glucides, ça provient des lipides, ça provient des protéines, mais on va dire que certains sont plus facilement transférables en énergie. Et
ouais,
j'ai reçu des gens sur ce podcast... Alors certains étaient partisans d'utiliser des glucides, certains étaient partisans d'utiliser les lipides, de ne manger quasiment aucune, de ne pas manger du tout de glucides, donc d'être quasiment dans un, comment on peut appeler, une espèce de diète cétogène où on puise l'énergie à base de lipides. C'est ça, parce qu'en musculation, en sport, je veux dire, on peut pas se passer des glucides non plus, j'ai l'impression, ou alors je me trompe, et ton avis là-dessus, les glucides, les lipides, qu'est-ce qui est mieux comme source d'énergie? Et encore une fois, je sais très bien que j'imagine, il va y avoir 36 000 paramètres.
Le paramètre principal, c'est l'état de santé de la personne. Il y a certaines pathologies dans lesquelles le fonctionnement métabolique est différent de celui d'un individu normal. Donc dans ces cadres-là, ça peut être un peu différent. Mais enfin, chez une personne normalement constituée qui est en bonne santé, le métabolisme qui fonctionne le mieux, c'est la glycolyse pour fournir l'énergie. Donc c'est ce qui permet, c'est-à-dire c'est à partir de glucides, donc de sucre, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc là-dessus, il y a pas vraiment de débat. Hein. Je sais pas qui c'est qui a dit qu'il y avait un débat, mais il y a pas de débat là-dessus. En tout cas, scientifiquement parlant, il y a aucun débat là-dessus.
Ouais, tu sais, on entend beaucoup hein, les glucides. De toute façon, c'est les modes. Hein. Un coup, c'est les glucides qui sont le diable. Un coup, c'est la viande. Un coup, c'est on est un peu perdu à force. Hein.
Ouais, mais on a jamais. Je suis d'accord qu'il y a eu des modes, mais les modes, elles ciblaient plus, par exemple, le sucre dans l'alimentation. Pas forcément le sucre en tant que nutriment essentiel. Ça aussi, c'est une distinction importante. Hein. Quand là, on parle de sucre, d'utilisation du sucre, on parle pas de sucre de table. Hein. C'est le sucre qui est décomposé pendant la digestion à partir des aliments. C'est pas le sucre...
Ce qu'on peut retrouver dans le riz, les pâtes, les
céréales, les légumineuses, les fruits. En fait, il y en a partout, hein, des sucres. C'est très compliqué d'avoir une alimentation sans sucre. Hein. Les fruits, les légumes, les oléagineux, tout contient du sucre et plutôt pas mal de sucre. C'est pour ça que le régime cétogène est assez restrictif, en fait. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le régime cétogène, c'est une alimentation qui est principalement constituée de lipides avec des protéines en petite quantité. Et qui est une méthode d'alimentation qui est très efficace contre certains problèmes de santé dans lesquels les voies d'utilisation des glucides sont endommagées ou alors sont source de problèmes particuliers. Alors l'exemple le plus connu initial, c'est l'exemple initial de la recherche sur ce sujet, c'est l'épilepsie, surtout chez les enfants. Historiquement, le régime cétogène, ça a été inventé justement pour lutter contre les crises d'épilepsie chez les enfants pour lesquels on ne pouvait pas donner de médicaments anti-épileptiques à cause des effets secondaires, parce que les médicaments n'étaient pas faits pour les enfants. Et donc, pendant longtemps, on a traité les enfants épileptiques avec le régime cétogène, avec d'excellents résultats. Donc ensuite, il y a eu de nouvelles molécules qui ont été utilisées, mais le régime cétogène a quand même un intérêt dans certains cas, en complément des médicaments ou parfois à la place des médicaments pour certaines personnes. Et ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir qu'on ne comprend pas encore à 100% comment ça fonctionne. Mais apparemment, la cellule fonctionne différemment, surtout au niveau cérébral, quand elle est nourrie par des corps cétoniques, donc qui sont le produit de dégradation finale des lipides. Ces corps cétoniques stabiliseraient l'activité membranaire électrique au niveau cérébral en évitant qu'il y ait une propagation trop rapide de l'influx électrique et qui entraîne donc des crises d'épilepsie. Donc ça fonctionne pas sur toutes les formes des crises d'épilepsie, mais sur beaucoup de formes. Voilà, puis sinon d'autres pathologies qui sont assez intéressantes a priori, c'est la maladie d'Alzheimer par exemple, que certains chercheurs appellent le diabète de type 3, et qui serait notamment caractérisé par le fait que les neurones, les cellules cérébrales n'utiliseraient plus correctement le glucose. Et donc, à ce moment-là, bah, les lipides deviennent une alternative intéressante.
Ok. Moi, par exemple, je n'ai ni Alzheimer, ni je suis pas épileptique non plus, je suis en bonne santé, je fais du sport, j'essaie de m'entretenir, etc. Comme j'imagine beaucoup ceux qui écoutent le podcast, j'essaie de m'identifier, ou en tout cas qui s'identifient à moi. Ça veut dire que finalement, je peux, si j'ai envie, enfin, c'est pas... Bon, pour tout ce qui est de la viande, on a compris, je ne vais pas y revenir dessus. c'est-à-dire que je peux manger des glucides. Le mieux reste quand même de prendre des glucides qui ont un index glycémique assez bas. Donc, il va y avoir une absorption pas trop rapide des sucres pour éviter un travail trop important du pancréas. Mm-hmm. Donc, je peux manger des glucides et bon, je peux manger du gluten, j'imagine.
Ça, c'est encore un problème différent.
Hein. Oui, c'est pour ça, parce que je viens de chercher là-dessus, parce que tu as écrit un bouquin sur ça. Alors, le gluten, grande histoire, on va essayer de résumer un petit peu ça. Il y a une maladie qui existe qui s'appelle la maladie cœliaque, qui est une vraie intolérance, enfin une vraie maladie où en fait tu ne supportes pas le gluten. Je ne sais pas si on peut dire intolérance ou allergie.
Je sais pas si on peut dire que c'est une vraie maladie, ça manque de respect pour ceux qui ont les autres problèmes liés au gluten.
Eh bien, justement, alors qu'en est-il de tout ça? Le gluten, on fait un petit point là, rapide, là. On en mange ou on n'en mange pas?
Un petit point rapide sur le gluten. Alors le gluten, donc tu as parlé de maladie cœliaque et intolérance au gluten, en fait c'est synonyme, hein, ça désigne la même maladie. Quand on parle d'intolérance au gluten, normalement on parle de maladie cœliaque.
Et c'est intéressant parce que le corps médical, il me semble, ne fait pas encore fait une distinction, il me semble.
Non, justement, au niveau médical, on fait pas cette distinction. Par contre, sur Internet, c'est-à-dire sur 99% des blogs sur Internet, la distinction n'est pas claire, parce que les gens comprennent pas vraiment la différence, en fait. Et cette maladie, elle est particulière, parce que c'est une maladie apparentée auto-immune. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une maladie dans laquelle, quand on mange du gluten, chez des personnes génétiquement prédisposées, on va générer des peptides qui vont provoquer une attaque auto-immune des cellules intestinales et provoquer tout un tas de symptômes généraux et intestinaux notamment. Je dis généraux parce que cette maladie, elle peut avoir des complications très graves et notamment, par exemple, un cancer du tube digestif, par exemple. Je l'ai déjà vu, moi. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que chez ces personnes-là, manger du gluten, c'est vraiment grave et dangereux. Donc, il faut faire vraiment, vraiment très attention.
Ouais, d'ailleurs, c'est des personnes qui sont quand même handicapées par ce mode d'alimentation parce que le gluten, on en retrouve quand même partout, ou presque.
Eh ben, oui, parce que donc, la particularité de cette maladie, c'est que comme c'est une maladie auto-immune, ça veut dire que c'est une particularité générale des maladies auto-immunes. Notre système immunitaire, quand on a une maladie comme ça, réagit à la moindre protéine. C'est-à-dire que même une quantité infime peut alimenter la réaction auto-immunitaire qui est néfaste. Ça veut dire que les gens qui ont une maladie cœliaque peuvent pas, par exemple, manger du chocolat dans lequel il y a écrit « peut contenir des traces de gluten ». Pour eux, c'est dangereux. Par contre, on va en parler ensuite, mais quelqu'un qui a un autre problème lié à la consommation de gluten, ce qu'on appelle en général la sensibilité au gluten, lui, il peut manger du chocolat qui contient des traces de gluten. En général, ça ne va pas lui poser problème. Voilà.
Bon, ça répond au fait que moi, admettons, je ne suis pas... admettons, on ne va pas l'admettre, je ne suis pas intolérant au gluten. Je peux en manger, il n'y a pas de problème, quoi. C'est bon pour la santé.
Le gluten, non, c'est pas bon pour la santé. Ça n'a aucune vertu particulière. Le gluten, c'est simplement certaines protéines qu'on retrouve, enfin, ces protéines majeures qu'on retrouve dans le blé et dans les autres céréales, enfin, dans la plupart des autres céréales, bien qu'il y ait d'autres noms pour les autres céréales. Mais non, ça n'a aucun bienfait particulier. Alors, j'ai vu qu'il existe aussi des steaks de gluten qu'on appelle le seitan. Ça c'est vraiment c'est un truc vegan, c'est une invention vegan, mais je ne la recommande pas, y compris aux vegans. Le problème du gluten, c'est un problème un peu controversé, un peu complexe en fait. Quand j'ai écrit mon bouquin, c'était un peu le début, mais le sujet a rapidement pris une ampleur un peu public, c'est-à-dire moi-même par exemple, je suis passé dans la tête au carré sur France Inter pour parler de ce truc-là. J'ai été interviewé rapidement sur France 2 au JT. Enfin voilà, ça devenait un peu un sujet en vogue. D'ailleurs, je me suis dit, oh bah c'est super, ça se trouve, il y a peut-être pas mal de gens qui vont acheter mon bouquin.
Ouais,
et puis ouais, bah non, mais au-delà de l'aspect financier, tu vois, c'était, je me dis, oh, c'est sympa, quoi. Le sujet va être un peu, on va un peu rentrer dans des choses un peu qui vont vraiment aider les gens, on va dire, par rapport à la santé. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, un peu tous les journaux se sont mis à parler de gluten. Et du coup, les gens voyaient partout dans les magazines, au supermarché ou ailleurs, le gluten, tatati tatata. Donc, t'avais l'avis de magazine A, magazine B, magazine C. Donc au final, les gens, ils achètent un magazine ou ils lisent un site internet, ils voient un article sur le gluten, ils lisent une ou deux lignes et puis ils se font leur avis. Donc en fait, ce qui s'est passé sur le sujet du gluten, c'est qu'on en a tellement parlé et on en parle tellement que beaucoup de gens pensent qu'ils sont experts sur le sujet, ils se sont fait leur avis. Alors pour eux, c'est dangereux, c'est pas dangereux, voilà. Mais du coup, ils vont pas chercher du tout à se renseigner sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne voient pas l'intérêt d'aller acheter un bouquin particulier, quoi.
Ouais, oui, ils se disent, c'est bon, j'ai mon avis, c'est pas la peine d'aller creuser plus.
Oui, voilà.
Merci, bonsoir.
C'est ça, c'est Internet, c'est ça maintenant, Internet. Il y a tellement d'informations, il y a beaucoup d'informations, mais en fait, au final, il n'y a pas vraiment d'informations, quoi.
Ouais, bah, c'est l'information, désinformation. Pour faire le tri, il faut s'accrocher. Ou alors, il faut aller très loin et la plupart d'entre nous n'ont pas le temps ni des fois l'énergie d'aller aussi loin à lire des études, à lire des livres, etc. pour se faire un vrai avis. C'est aussi une façon de décharger le cerveau d'une certaine responsabilité ou d'un certain effort. Hein. C'est, on lit un truc, on se dit, bon, ok, c'est bon, j'ai mon avis, maintenant je passe à autre chose.
Oui, bon, tout à fait. Non, mais t'as raison. C'est vrai qu'Internet, aujourd'hui, c'est plus un divertissement qu'un objet d'apprentissage, à part pour les étudiants, mais très souvent, c'est un objet de décontraction où on passe du temps pour se changer les idées, etc. Mais par contre, ce que savent pas les gens, c'est qu'aujourd'hui, Internet, c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que si vous cherchez une information sur un sujet, 99,9% des sites Internet qui traitent le sujet sont des sites publicitaires, en fait.
Ah, qui a un truc avant derrière, quoi.
Bah, pas forcément, justement. C'est ça le piège. C'est qu'on peut trouver. Il y a des sites d'information.
Par exemple.
Bah, oui, non, même pas forcément, en fait. ça va être, par exemple, c'est un peu compliqué à expliquer, ça. Par exemple, supposons que je sois un industriel des céréales et que je trouve un site qui parle d'alimentation, le site, je sais pas. Nutrition santé.fr, nutritionsanté.fr, et puis je contacte les gens de nutritionsanté.fr et je leur propose d'écrire un article sur le gluten et la santé, par exemple. Bah, ils vont me dire oui, bah, pas de problème. Bah, écoutez, c'est 1000 euros l'article. On vous fait la rédaction, et puis dans le texte, on vous met un lien ou deux comme vous voulez. En fait, les gens achètent des liens qui sont pas forcément visibles comme étant des pubs dans l'article, et beaucoup de sites internet aujourd'hui vivent comme ça, si tu veux.
En fait, c'est de l'éducation en amont.
Bah, c'est pas
de
l'éducation.
C'est la mauvaise. Enfin, quand je dis l'éducation, c'est ni bon ni mauvais, mais en l'occurrence,
non.
Ça serait de la mauvaise éducation.
Bah, c'est pas du tout de l'éducation, parce qu'en fait, les personnes qui tiennent ces sites internet n'y connaissent rien. Donc, ils vont écrire un article un peu rapidement, voilà, parce que le but de l'article, okay, c'est pas vraiment de publier de l'information. Le but de l'article, en fait, c'est d'introduire des liens. Donc, le contenu de l'article, c'est un peu, il est là pour plaire à Google. Il est pas là pour faire de l'information. Et ensuite, dans un second temps, il y a deux possibilités. Soit l'éditeur, donc le site internet, écrit cet article, donc il va faire ça le plus vite possible, le mieux comme il peut, on va dire. Et l'autre solution, c'est que le site internet propose donc à la société qui lui a demandé d'écrire l'article sur le gluten, lui dit, bah, si vous voulez, vous écrivez l'article vous-même. Donc le mec, il dit, parce que ça coûte moins cher en général. Donc le mec, il va dire, bah ouais, super. Donc il va écrire lui-même l'article. Donc évidemment, son article va pas être indépendant, il va pas être spécialement intéressant. Il a pas embauché deux journalistes pour faire un super article. Donc c'est un peu compliqué, voilà. Et même les grands, pour info, les grands médias font ça aussi, hein. Les très très grands médias font ça. Et en plus, ils vendent de la pub, et en plus, ils sont financés par un tel. Enfin bon, voilà, c'est très compliqué. Moi, quand j'ai commencé Internet, d'ailleurs à l'époque, un peu avant Nutrition de la Force, c'était une époque où il y avait beaucoup plus de vrais, c'était beaucoup plus facile de trouver des vraies informations, en fait. Parce qu'il n'y avait pas encore autant d'argent qui tournait autour d'Internet. Donc, c'était juste, c'était plus de passion, plus d'envie de transmettre, etc., etc. Et je pense que c'est ça qui fait le succès de Nutrition de la Force, d'ailleurs. C'est que c'est le seul bouquin qui reprend des informations indispensables, efficaces, nécessaires, compréhensibles dans un truc. Ça n'existe pas sur Internet aujourd'hui. C'est impossible. On ne peut pas retrouver ça.
Sauf les petits sites qui reprennent les concepts du livre.
Oui, mais bon, si tu copies tout le livre à ce moment-là, c'est plus très légal. Mais non, sinon, voilà.
J'ai pas d'idée en tête, mais j'imagine bien qu'il doit y avoir 2-3 blogs qui doivent traîner quelque part sur Google ou des personnes qui auraient lu tes livres et puis qui reprendraient quelques.
Il y a le mien, il y a mon site déjà. J'ai repris le. J'ai bien lu mon livre et. Non, mais je dis ça parce que c'est vrai que je connais quelques sites internet qui fonctionnent en publiant de l'information gratuite. Il y en a très très peu, mais le mien en fait partie. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Ouais, enfin, mais... si je parle de mon laboratoire forcément, mais et de mes livres, mais c'est pas de la pub au sens classique.
Et comment tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait se renseigner alors bon, sur la nutrition, on a compris, évidemment, mais bah, sur la nutrition de manière générale ou même sur d'autres sujets, hein, qui voudrait commencer à se renseigner, donc Internet est un monde vaste, c'est la jungle, comment on fait pour avoir des informations de qualité, généralement ? On essaie de se focusser sur des gens qui sont indépendants, c'est ça la solution ?
Moi, je pense que la solution... Pour la nutrition, bon, ça va faire. Du coup, je suis pas objectif si je parle de mon site, mais je pense que il y a beaucoup, beaucoup de données intéressantes et qualitatives sur mon site internet. Je passe beaucoup de temps dessus, donc voilà, beaucoup d'articles de fond bien sourcés, etc. Sinon, il y a un autre site que j'aime bien, puisque je connais très bien son fondateur, c'est lanutrition.fr, qui est un site assez connu aussi, où il y a beaucoup de vraies infos très très utiles. Alors c'est un peu comme moi, hein. Lui son modèle économique c'est de faire la publicité pour les bouquins de sa maison d'édition et puis il a aussi un petit peu de compléments alimentaires donc c'est un peu pareil, personne peut travailler gratuit, ça évidemment faut bien se rendre compte que ça prend beaucoup de temps d'écrire des articles etc. Et donc il faut forcément trouver un moyen pour que ça fonctionne mais voilà il y a des moyens qui sont peut-être plus ou moins respectueux du lecteur ou d'une certaine éthique on va dire. Donc principalement c'est ces deux sites. Hein. Après c'est pas simple. Hein. Je connais pas vraiment de en français. Je connais pas.
Il y a pas beaucoup de raccourcis. Bon ben.
Non mais par contre excuse-moi mais je suis en train de penser qu'on n'a pas répondu du tout à la question sur le gluten. Hein.
Est-ce qu'il y a une réponse sur le gluten ?
Ah bah oui parce que tu voulais en savoir plus.
Je l'avais en tête. Hein. Je le gardais. Je l'avais toujours. Je trouvais qu'on on zigzaguait sur d'autres choses qui étaient intéressantes. J'allais y revenir, j'allais te demander aussi qu'est-ce que c'était que le gluten exactement ? Est-ce qu'on peut le définir, ce truc ?
Oui, bah oui, comme je te disais.
D'où ça sort ? Ça a été créé ? C'est quoi ?
Ah non, le gluten, c'est une protéine naturelle qu'on retrouve dans les céréales à gluten, donc notamment le blé, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le seigle, enfin, la plupart des céréales, on va dire, hein, contiennent du gluten. Donc, c'est une protéine naturelle. C'est une protéine qui confère à ces céréales une résistance et une élasticité quand on moule les graines. Donc, la farine, c'est ce qui permet de faire du pain avec, en fait, avec la farine. Vous pouvez pas faire un pain avec de la farine de riz sans ajouter des additifs ou mélanger à d'autres farines, par exemple, parce que elle est pas panifiable, c'est-à-dire qu'elle gonfle pas comme va le faire de la farine de blé. Donc, le gluten a toujours existé. C'est quelque chose d'intrinsèque qui existe dans le pain. Donc, on en a toujours mangé depuis très longtemps.
Donc, c'est bon.
pas forcément. Bah, on en a toujours mangé. Alors, on en a toujours mangé depuis à peu près 10 à 15 000 ans. Voilà. En sachant que nous, sur Terre, on est là depuis probablement beaucoup plus longtemps que ça. Donc, on en a toujours mangé depuis 10 à 15 000 ans, ce qui est pas très loin. Mais bon, l'histoire du gluten, en ce qui me concerne, la rédaction de mon livre, c'est lié à la parution d'études qui commençaient à montrer qu'il y avait de plus en plus de cas d'intolérance. Maladie intolérance au gluten, maladie auto-immune, sans qu'on trouve de causes réelles dans l'environnement. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé que, je sais pas moi, les gens qui conduisaient à droite d'un seul coup se mettaient à avoir plus d'intolérance au gluten, ou on n'a pas trouvé d'explication de corrélation avec autre chose, donc on ne comprenait pas forcément pourquoi il y avait plus cette maladie. Donc c'est le point de départ de mon enquête que j'ai faite dans mon livre. Et cette enquête, elle aboutit à la conclusion que, en fait, le blé, comme beaucoup d'autres aliments, hein, a subi des mutations génétiques, mais qui ont été très très importantes pour le blé, notamment pendant une période qu'on a appelée la Révolution verte. Et ces mutations génétiques, elles ont entraîné des changements au niveau de peptides sur le gluten qui l'ont rendu plus antigénique, c'est-à-dire qu'il est plus reconnu par le système immunitaire de certaines personnes comme ennemi. Et par conséquent, eh bien, il peut déclencher plus souvent des maladies intolérance au gluten que par le passé. Et en parallèle, on a constaté depuis, je sais pas, 15 ou 20 ans, parce que c'est toujours difficile de donner un point de départ à ça, mais on a constaté qu'il y avait des gens maintenant qui développaient des symptômes liés à la consommation de gluten, alors qu'ils n'ont pas cette fameuse maladie intolérance au gluten, qui est une maladie auto-immune. Ils ont une autre maladie, une nouvelle maladie. Et cette maladie, donc, on l'a appelée sensibilité au gluten. Alors c'est une maladie un peu complexe parce que on travaille toujours sur les mécanismes. Donc aux dernières nouvelles, on pense que ce serait peut-être des inhibiteurs de trypsine. Donc c'est des molécules protéiques qui se retrouvent au sein du gluten, mais c'est pas spécifiquement le gluten qui serait le problème, mais qui provoquerait des réactions inflammatoires au sein de l'organisme chez certaines personnes et qui expliquerait pourquoi est-ce que les symptômes de la sensibilité au gluten sont des symptômes généraux, variés et complexes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des cas de personnes qui peuvent déclencher des migraines simplement à cause du gluten. Donc, ils arrêtent de manger du gluten, ils n'ont plus de migraines. Ou alors, ça peut être des douleurs articulaires, de l'arthrose. Ça peut être, il y a même des cas de schizophrénie. C'est rare, mais il y a des cas de schizophrénie liés à la consommation de gluten chez certaines personnes. Ils arrêtent de manger du gluten, ils sont plus schizophrènes. voilà, donc ça, beaucoup de problèmes de santé chroniques pour lesquels on trouve pas de solution, de la fatigue chronique, des choses comme ça, qui sont liés à la consommation de gluten.
Ça, donc, si tu veux faire des tests, faire des tests, alors, des tests alimentaires déjà.
Eh ben, le problème, c'est que les tests sont pas fiables. Les tests alimentaires, aujourd'hui, permettent pas de diagnostiquer une sensibilité au gluten. Le seul moyen vraiment efficace de le savoir, c'est de faire le test en réel, c'est-à-dire d'arrêter de consommer du gluten et de voir si les problèmes de santé qu'on a disparaissent.
Quand même pas.
C'est ce que je veux dire. On n'a pas besoin de faire forcément longtemps. On fait entre 2 semaines et 1 mois d'arrêt du gluten, sérieusement, et on regarde ce qui se passe. Et s'il se passe rien, c'est qu'a priori, on n'a pas de problème avec le gluten. Par contre, si on a des problèmes qui disparaissent, c'est qu'on a une intolérance, on a un problème lié avec le gluten. D'ailleurs, il faut faire très attention à ça, parce que si jamais vous découvrez que vous avez un problème lié au gluten, en arrêtant de manger du gluten, vous n'avez pas toute la réponse. Vous avez uniquement une partie de la réponse. Vous savez que vous êtes soit sensible, soit intolérant, mais vous ne savez pas si vous êtes sensible ou intolérant. Donc, il faut ensuite faire des tests là, médicaux, avec un médecin, ou alors suivre les prises de sang qui sont indiquées dans mon bouquin, pour savoir avec certitude si vous avez juste une sensibilité au gluten ou une intolérance au gluten, la fameuse maladie auto-immune. Pourquoi c'est important ? Parce que si vous avez une intolérance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu te souviens, on ne peut pas consommer une tablette de chocolat dans laquelle il y a écrit « peut contenir des traces de gluten » parce que ça va alimenter la réaction auto-immune et ça peut avoir des conséquences graves à long terme. Alors que dans la sensibilité, on peut manger ce fameux chocolat qui contient des traces de gluten. Dans la sensibilité, la notion de quantité est importante. Parce que je l'ai expliqué juste avant, c'est une maladie qui est une maladie en fait inflammatoire liée à l'absorption de protéines inflammatoires. Comme toute maladie inflammatoire, il y a un seuil. C'est-à-dire que si on ingère des petits composés inflammatoires en toute petite quantité, c'est pas grave. Le système immunitaire, le corps va bien gérer. Mais au bout d'un certain seuil, il va plus gérer.
Et est-ce que ça serait possible que quelqu'un qui... je vais reprendre mon exemple encore une fois. Moi, je me sens plutôt bien. J'ai pas l'impression d'être dans un état inflammatoire permanent. J'ai pas de douleur. Il me semble pas d'avoir une fatigue excessive, même si un petit peu comme tout le monde, il peut m'arriver d'être fatigué. Est-ce qu'il est possible que j'ai une sensibilité au gluten sans le savoir et qu'en faisant un test de 2 à 4 semaines en arrêtant complètement le gluten, je me rends compte que je suis encore plus fort, encore plus en bonne santé, tu vois, que je deviens un super-héros. Un petit peu comme celui qui, en fait, ne voit pas très bien, ne s'en est jamais rendu compte. Et un jour, on lui met des lunettes et il se dit « Oh mon Dieu, je vois pour la première fois ».
Bah, je pense que ça, c'est une vraie question, Jérôme, parce que je pense que toi, tu es quelqu'un, par ton métier, par ton histoire personnelle, quelqu'un de connecté à ton corps. C'est-à-dire que tu sais écouter les signaux de ton corps. Moi, personnellement, j'ai déjà discuté avec des gens, ils disent j'ai mal au ventre, ou je sais pas, ou j'ai mal quelque part. Et tu sais pourquoi tu as mal? Ah bah non, je sais pas. Ils n'ont pas forcément d'analyse, beaucoup de gens n'ont pas d'analyse sur ce qu'ils font dans leur vie. Tu vois, par exemple, moi, je sais pas, si j'ai mal au pouce, bah, je me rappelle, c'est parce qu'hier, j'ai fait du marteau. Je me suis cogné le pouce 3-4 fois, là, j'ai le pouce dans un sale état, et je sais pourquoi j'ai mal. Évidemment, c'est pas toujours aussi évident, mais il y a parfois des cas où c'est important d'avoir cette connexion entre son corps et l'environnement de son corps. Par exemple, j'ai un ami qui a des maux de tête. Et quand il passe me voir, il me dit oh, j'ai mal à la tête. Je lui dis t'as bu aujourd'hui un peu d'eau? Ah non, j'ai pas assez bu. Ben voilà pourquoi t'as mal à la tête. Ouais. On sait que le manque d'eau, ça donne mal à la tête. Donc avoir cette connexion, c'est très important pour bien comprendre son corps et savoir le respecter. Donc en ce sens, le test que tu proposes, il est effectivement, je pense, très utile pour beaucoup de gens, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'arrivent pas forcément à
Ah oui, à savoir s'ils sont au top ou à... Oui.
Voilà, exactement.
Pour savoir où ils en sont, ouais.
Et dans ce cadre-là, si vous faites partie de ces personnes, oui, alors dans ce cas, ça peut être bien de faire le test de manger sans gluten. Bon, moi, personnellement, oui, en général, c'est quand même rare que j'entende quelqu'un qui me dise qu'il voit aucune différence quand il mange sans gluten. Parce que le truc qui revient souvent chez les gens qui n'ont aucun problème et qui font l'essai d'arrêter le gluten, c'est qu'ils sentent une digestion plus légère, ils sentent mieux au niveau du ventre. Juste en sensation, tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de grave, hein, mais ils sentent mieux au niveau digestif, ils sentent plus agréable.
Après, la vraie question, c'est de savoir si cet effet positif est suffisamment important pour contrecarrer la difficulté à ne plus manger de gluten, quoi. Tu vois?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Ça, après, tu sais, ça, c'est un problème général, en fait, qui dépasse bien le gluten. Hein. C'est comme, oui, c'est pour tout. Si t'es fumeur, par exemple, il y en a qui préfèrent fumer et garder les dents pourries. Tu vois, c'est une question de motivation.
Plus difficile. Ouais, psychologiquement, ils trouvent ça plus difficile d'arrêter pour avoir les dents blanches que continuer
à avoir les dents jaunes. Ça dépend vraiment des gens. Parce que t'as des gens, par exemple, moi, personnellement, j'ai fumé quand j'étais ado.
J'ai fumé aussi, hein, je plaide coupable. Arrêté il y a deux
j'étais,
ans.
J'étais très jeune, je me rappelle plus exactement quel âge, j'étais au collège. Bref, j'ai fumé à peu près pendant un an. Et en fait, j'ai arrêté de fumer parce que je supportais pas cette notion de dépendance psychologique. Je supportais pas ça, en fait. J'ai un peu une nature d'indépendant. Et j'aime pas ce qui est idiot, en fait. Et être dépendant à quelque chose, un truc comme ça, je trouve ça un peu, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Du coup, bon, je trouvais ça cool, c'était pour faire comme les copains, puis je traînais avec des grands, qui étaient des gars qui étaient un peu plus grands que moi, et puis qui fumaient. Et puis bon, c'était, enfin, tout le monde connaît un peu l'histoire. Hein. Ça faisait un peu bonhomme.
Ben oui, c'est ça. Ça fait un peu le mec stylé, tu sais. On s'identifie à ces mecs dans les films américains, là, toujours la petite clope au bec. Allez, c'est.
Ouais, c'est ça. Puis je pense que quand on est à l'école aussi, ça fait un peu plus dur, un peu plus impressionnant ou quelque chose comme
ça. Le mal-alpha.
Voilà, c'est ça. Mais rapidement,
j'ai
trouvé ça très con, donc j'ai vite arrêté. Mais t'as des gens à l'inverse qui, sur leur lit d'hôpital avec un cancer du poumon, fument. Dès qu'ils peuvent sortir, ils fument. Ça, moi, j'en ai vu. Hein. Donc, tu vois, chaque personne est différente. Après, c'est vrai que la société ne cultive pas non plus notre capacité d'indépendance et de remise en question. Et puis, c'est de pire en pire, d'ailleurs. Remise en question de l'ordre établi.
La remise en question, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est... qu'on perd. Alors, il y a des irréductibles gaulois qui restent, qui essayent justement de faire réfléchir les gens. J'essaye de faire partir de faire partie un petit peu de ces gens-là, mais bon, à travers les podcasts, à travers les gens que j'essaie de recevoir, à travers la discussion qu'on a, si ça peut faire réfléchir, tant mieux. Hein. Moi, j'adore réfléchir. Je pense que les gens, l'idée de réfléchir, de remettre en question est intéressante, mais après le faire concrètement au quotidien et de jour en jour, c'est une autre paire de manches. Mais bon, quand on voit, c'est pas pour critiquer les réseaux, tu vois, il y a du bon, il y a du mauvais, mais quand on voit certains réseaux sociaux, Instagram, pour pas le citer, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a quand même sacrément du mauvais dedans, quoi. Les téléréalités, les trucs. Il faut savoir, il faut choisir les gens qu'on suit. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis, putain, quand t'entends des conneries pareilles sur certaines chaînes, sur certains trucs, pas nécessairement nutrition, hein, dans n'importe quoi, tu te dis, mais c'est incroyable d'avoir des centaines, je pense à quelqu'un en particulier, je vais pas le dire, qui a rien à voir avec la nutrition ou la muscu ou
mais c'est
sport.
Qui alors?
Je te le dirai en off. J'ai
parlé de mec. Est-ce qu'on peut avoir la première lettre?
Non. C'est un O, mais vous trouverez jamais. Alors peut-être que j'ai des potes qui écoutent le podcast et peut-être que ils sauront de qui je parle. Mais
ah, c'est Onche, Jean Onche.
Non, dis pas ça. Je veux absolument l'avoir sur le podcast. Non, c'est pas Jean. Jean Onche, il dit pas de conneries. En tout cas, s'il en a dit, il en a pas dit beaucoup. Mais des fois, tu vois des centaines de milliers de personnes qui suivent des gens et tu te dis c'est quand même incroyable d'écouter des conneries pareilles. Enfin, bon, on va pas refaire le monde.
Bon, on a changé de télé.
On
a changé de télé. Les jeunes sont passés sur Instagram et puis sur les autres, les TikTok, etc. C'est la télé des jeunes.
Ouais.
Mais ça fonctionne sur le même principe, hein, d'ailleurs, hein, puisque tous les gros stars des réseaux, principalement leur ce qu'elles diffusent, c'est orienté autour de la notion de publicité. Donc c'est un peu comme ce qui passe à la télé. Effectivement, c'est peut-être encore pire parce que dans une émission de télé, à la télé, à une époque, il y avait des émissions un peu culturelles, de débat, on pouvait être un peu dissident et discuter de façon intéressante. Maintenant, je crois que ça n'existe plus. Enfin, je regarde plus la télé depuis longtemps. Mais...
Ouais, c'est non, moi non plus, je regarde plus la télé. Je pense que c'est des plateformes comme TikTok, effectivement. Enfin, encore une fois, je critique, je connais pas bien, mais est-ce que tu pense que entre deux conneries sur TikTok, il y a quelque chose de très sensé. Peut-être, hein. Peut-être.
J'en sais rien. Moi, j'ai jamais. Je vais pas dessus. Mais... Mmh. Je sais pas.
Ouais,
je comprends pas à quoi ça sert.
À faire des vues, à ramener du trafic et à vendre des choses derrière, de toute façon, comme tout.
Vendre, c'est pas forcément un mot sale de vendre.
Non.
Hein, mais
non, ça dépend ce que tu vends.
Ouais. Et puis c'est. Ouais, bon, enfin bon.
Il y a une phrase, de toute façon, tant qu'il y a des cons pour acheter, ça, c'est un peu ça aussi, après, qui est à qui la faute, quoi. Ceux qui achètent ou ceux qui vendent. Mais parce que ceux qui vendent, c'est parce qu'il y en a qui achètent.
Ah ouais, mais bon, oui, c'est sûr. Non, mais c'est bon. Sûr, mais après, moi, je crois que la faute, c'est aussi la faute à la société et à l'éducation. C'est pas forcément à ceux qui vendent ou à ceux qui achètent.
C'est à ceux qui éduquent.
Bah oui, parce que je veux dire, il y a une très grande différence entre un enfant qui est éduqué dans une famille où dès son plus jeune âge, il est déjà devant la télé avec ses parents à regarder des trucs ou sur l'ordinateur, voilà, ou un enfant qui va d'abord commencer à lire des livres, à discuter, à je sais pas moi, à apprendre la nature, à regarder comment ça se passe les choses, à bricoler, à faire des choses. Concrète, ça fait façonne pas du tout le même être humain. Je raconte une petite anecdote, Jérôme, si tu veux bien.
Oui, bien sûr.
Hier soir, on était en balade. Bon, et avec notre fils, hein, donc qui a 2 ans. Et puis il y a un autre petit garçon qui passe avec ses parents dans une grosse voiture, tu sais, les voitures un peu téléguidées, là, mais très grosse, tu sais, un truc dans lequel l'enfant est assis, et c'est les parents qui conduisent la voiture avec une petite télécommande.
C'est
une
poussette. Ouais.
Ouais, voilà, mais c'était un truc pour l'anniversaire, tu vois, de l'enfant. Donc, bon, voilà, c'était un très beau cadeau, j'imagine. Et donc, on a regardé ça, on était contents, ça nous a fait rigoler, c'était sympa. En plus, les gens sont très sympathiques. Et du coup... au fond de moi, je me suis dit, effectivement, à partir d'un certain âge, quand les enfants sont confrontés à d'autres enfants qui ont une possession que eux n'ont pas, ils sont jaloux. Ils disent, ils aimeraient l'avoir. Ah, moi aussi, je veux ça, je veux ci, etc. Et si tu regardes chez l'adulte, c'est un peu pareil, en fait. T'as le mec, t'as ton voisin qui vient de s'acheter, je sais pas moi, une Porsche, une villa, je sais pas quoi. Et tu dis, ah ouais, moi aussi, je veux la Porsche et je veux la villa. Il y en a qui raisonnent comme ça. Et il y en a d'autres qui raisonnent en disant « Ah ouais, c'est super, je suis super content pour vous. Les affaires marchent, franchement, bravo. Bah, super, quoi. Je suis content. C'est pas du tout la même chose, en fait. C'est comme quand t'as quelqu'un qui est malade, par exemple, dans ton entourage. Si elle est en bonne santé, t'es content pour elle. Ça veut dire qu'on est aussi capable d'être content de ce que les autres ont. C'est particulièrement le cas de la santé. On s'en rend beaucoup plus compte pour la santé. Mais on peut aussi apprendre à être content de ce que les autres ont comme matériel, sans forcément que nous aussi, on veuille l'avoir. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une manière d'éduquer aussi. Est-ce que forcément, finalement, inconsciemment, on a toujours tendance à faire penser à nos enfants que... Tu vois, on leur dit par exemple, bah, si t'es sage, je t'achèterai la voiture comme le voisin. Ou tu vois ce que je veux dire ? De façon profonde, on nous apprend depuis le plus jeune âge à vouloir toutes ces choses comme étant des récompenses, des choses comme ça, et tout est façonné autour de ça. Quand tu vas dans un magasin aujourd'hui, l'étalage, la caisse, tout est fait pour te donner envie. Et pour un enfant, c'est le cauchemar. L'enfant, il arrive là-dedans, ça c'est super, mais je peux pas l'avoir. Il y a plein de trucs, on me propose plein de trucs, mais je peux pas l'avoir. Donc, tu cultives toute une frustration, tout un truc hyper malsain. Et puis après, comment veux-tu t'étonner que quand il arrive à 18 ans et qu'il a un peu d'argent de poche, il achète toutes les conneries qui passent ? C'est normal.
Mmh. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'éducation des enfants par rapport à tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut se comparer aussi, beaucoup.
Enfin, je dis pas que j'ai la solution, d'ailleurs.
Non, moi, mais c'est l'une des solutions...
Je suis jeune papa, je suis probablement trop peu expérimenté pour... voilà, mais bon, c'est...
Bon, ben, tu vas offrir une super poussette téléguidée à ton enfant, alors.
c'est pas vraiment...
Parce que le voisin, il l'a, donc il faut absolument que le tien, il l'ait maintenant.
C'est ça, t'as tout compris.
Bon, non, mais on essaie d'éduquer et on va continuer à éduquer tout ça. D'ailleurs, faites écouter les podcasts, je m'adresse aux auditeurs, je prends une voix radiophonique pour ça. Faites écouter les podcasts à vos enfants, comme ça ils vont avoir une bonne éducation de la santé et du sport à travers le podcast biomécanique. Bon, alors on mange, le gluten, on a compris, enfin en tout cas j'ai compris. Super, donc je peux manger des glucides, je peux manger de la viande mais je suis pas obligé. En fonction de voilà, plein de paramètres. Je peux manger du gluten, mais je suis pas obligé. Je peux faire un test pour savoir si je vais avoir une sensibilité ou pas.
C'est vrai que c'est peut-être moins sexy que si je t'avais dit attention, mange de la viande, tu vas avoir un cancer, et puis mange du gluten, tu vas mourir demain matin. Mais bon.
Mais la peur marche bien. Hein.
Je sais.
Bon, alors les produits laitiers, les céréales, on va peut-être pas les céréales dans du lait le matin. Plus le fromage matin, midi et soir, et une glace pour terminer, et un jus d'orange pour finir.
C'est une vraie question ou
Non, je te taquine parce que je prends tous les trucs c'est difficile d'avoir, il y a tellement de choses dans la nutrition, dans la santé, c'est bien, c'est pas bien, c'est pour ça, tu vois, j'en rajoute parce que
ah oui.
C'est pour vraiment se rendre compte qu'il y a tellement de trucs, et même moi, je suis pas un expert du tout, mais je me suis beaucoup intéressé à tout ça, et je suis très content qu'on en fasse qu'on en discute, tu vois, mais je me suis intéressé à tout ça, à la nutrition, aux macro, aux micro, nutriments, manger pour être en bonne santé, manger pour les performances. Manger pour prendre de la masse musculaire, pour perdre, pour sécher, pour perdre du gras. Et en fait, c'est donc tu vois, je pense avoir quelques notions, tu vois, grâce notamment à tes livres aussi que j'ai lus plus jeune, qui m'ont donné de très bonnes bases de compréhension de l'alimentation, de la nutrition. Mais même malgré tout ça, je reste influencé des fois par certaines théories. Je me dis ah putain, mais est-ce que je me tromperais pas sur ça depuis le début ? Est-ce que finalement ça, tu vois, je parle du jus d'orange, bon, ou des glaces, ou parce que ça a été des modes. J'ai mangé des glaces avant de dormir. J'en sais rien, j'ai aucune idée en fait, tu vois. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en discuter plus tard. Mais ouais. Alors les produits laitiers. Ouais. Excuse-moi, je t'ai embrouillé avec tout ça.
Non, je t'en prie. Non, je t'en prie. Non, c'est très intéressant. Le fait est que ce qui perd aussi les gens, c'est une forme de sophisme. Qui consiste à dire qu'on a absolument besoin d'une réponse scientifique détaillée pour savoir quoi faire. Tu vois, c'est un peu comme finalement comme pour l'écologie, en fait. Aujourd'hui, la vision de l'écologie, c'est qu'il faut plus de technologie et que c'est la technologie qui va nous sortir de la problématique écologique.
Et toi, mais
c'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est un dogme. D'ailleurs, tu vois, ta question, tu n'y crois pas. Mm. C'est-à-dire que c'est érigé en religion. On ne remet même plus ça en question. On considère que c'est la seule solution. La science est une nouvelle religion et elle va nous sauver. Je dis pas que c'est pas ce qui va se passer, en fait, j'en sais rien. Je dis juste que c'est bizarre qu'on se questionne pas sur la chose. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas une réflexion pour savoir si est-ce que c'est plausible que la science nous sorte de toutes les problématiques écologiques auxquelles on est confronté, ou est-ce que finalement la solution aux problématiques écologiques, c'est même une forme de décroissance scientifique, c'est-à-dire d'arrêter d'attendre de croire que le progrès va tout faire à notre place. Tu vois ce que je veux dire? Si on regarde jusqu'à présent, en tout cas, là aussi c'est assez nuancé. On peut dire que le progrès a certainement amené des choses qui sont bénéfiques pour l'homme et l'environnement, mais il a aussi amené beaucoup de choses qui ne sont pas bénéfiques pour l'homme et pour l'environnement. Et alors pourquoi je dis ça? C'était par rapport à quoi la question déjà? Par rapport à l'alimentation. Ouais.
L'alimentation, et j'étais un peu plus
spécifique là sur les produits laitiers et les jus de fruits.
Bon, les jus de fruits, on n'est pas obligé, hein, parce que d'ailleurs.
Non, mais je fais une parenthèse, parce que c'est intéressant, c'est que les personnes qui disent qu'il faut boire des jus de fruits, voire beaucoup de jus de fruits, parce que c'est très bon pour la santé, utilisent cet argument-là, c'est-à-dire qu'ils se basent uniquement sur la science. Ils disent c'est la science, la science a dit que c'est bon, on pouvait boire des jus de fruits. Moi, je suis pas forcément, déjà la science, si on a l'analyse techniquement, elle sait pas ce qu'elle dit, premièrement. Mais deuxièmement, je pense qu'il faut pas attendre que la science ait toutes les réponses. Il faut aussi utiliser de l'empirisme. Je pense que c'est important en nutrition. Et notamment, le fait que les aliments qui sont les mieux adaptés pour nous, qui nous permettent de garder une bonne santé, c'est les aliments naturels, les moins transformés possibles. À partir de là, le jus d'orange reste une denrée quand même passablement transformée et donc moins bonne pour la santé qu'une orange entière. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut retenir.
Ouais. Et je renvoie d'ailleurs à un podcast que tu avais fait avec, je sais plus comment il s'appelle.
Anthony Fardet.
Voilà.
Et Jean Hanche.
Et Jean Hanche, exactement. Et qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube, il me semble.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Et bien, parce que vous en parlez longuement et c'est extrêmement très intéressant.
Oui, mais c'est un sujet sans fin, parce que je sais que les partisans du jus d'orange, là, sont un petit peu, c'est un peu sectaire, hein, leur discours. On a l'impression, et tout de suite, il y a une agression. Si tu leur dis non, le jus d'orange, c'est pas bien, on sent qu'il y a une sorte de croisade derrière. Il y en a même un qui a écrit un article à mon sujet pour expliquer à quel point j'étais un crétin, selon lui. Donc, ça me fait un peu rire, parce que quand vous en êtes à ce niveau de réflexion, c'est que vraiment, il n'y a pas grand chose qui vous stimule, quoi. En réalité, les études sur le sujet, il y en a régulièrement. Donc, pour eux, c'est bien parce que ça leur permet d'alimenter la théorie qui est que les jus de fruits sont bons pour la santé. On en a transmis une, figure-toi, il y a, je crois, un jour ou deux, un internaute qui est partisan de cette théorie. Alors, il m'envoie le lien de l'étude et il me dit, ah, t'as vu, en fait, c'est bien de boire des jus de fruits. Parce que donc, il y a un graphique qui montre que, en fait, boire des jus de fruits, ça serait même bon pour la santé, santé cardiovasculaire, etc., jusqu'à 600 ou 700 millilitres par jour, ce qui est quand même une belle quantité, hein. Ça fait pas mal de sucre et de liquide. Mais bon, je regarde un peu l'étude, je commence à regarder les noms des personnes qui ont fait l'étude. Ensuite, j'ai cherché les financements, etc., à qui étaient affiliés les auteurs et tout. Et je vois que derrière, en fait, il y a une filiale de Lactalis en Italie qui fabrique des jus de fruits qui finance la majorité du travail. Alors je lui dis en message privé, je lui dis ça. Il me dit oui, mais c'est quand même pas parce que les industriels financent ces études qu'il faut les remettre en question. C'est pas pour ça qu'elles sont fausses. C'est sûr, évidemment, c'est pas parce qu'une étude est financée qu'elle est fausse. Enfin, c'est quand même, il faut quand même se poser des questions. Si toutes les études ou presque toutes les études qui disent que le jus de fruits c'est bien sont financées par les industriels, là il y a peut-être un problème. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut voir le truc. Donc bon. Ouais,
comme pour les médicaments.
Oui, comme pour les médicaments ou comme pour d'autres choses. Quoique le médicament, c'était un sujet extrêmement compliqué, mais bon, bref. Voilà. Personnellement, je n'ai pas passé mon temps à analyser toutes les études sur le sujet. On va pas réinventer la roue, si vous voulez. Il y a des choses qui sont un peu basiques. Et le fait est que plus un aliment est transformé, moins il est bon, parce que sa matrice est détruite, les fibres sont détruites. les vitamines aussi vont s'oxyder plus rapidement. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont faire que ça va être moins intéressant. Ce qui ne veut pas dire que tous les jus sont forcément mauvais pour la santé. Hein. Les jus de légumes en particulier sont beaucoup plus intéressants que les jus de fruits et peuvent apporter des bienfaits pour la santé parce que ça peut permettre de consommer de grandes quantités de magnésium, de potassium, éventuellement un peu de vitamine B9. Ça peut être vu effectivement comme une forme de complément alimentaire finalement naturel. Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci avec ça.
C'est quand même très intéressant ce que tu dis là. Pour revenir sur une règle, j'essaie de ramener tout aux règles, mais le fait de manger des aliments qui sont non transformés, donc des aliments bruts, c'est quand même un truc. Bon, voilà, on peut dire ça. Et d'ailleurs, c'était Fitness Smith qui en avait parlé sur l'épisode que j'avais fait avec lui. Sur quand je lui demandais, bon, alors au final, c'est quoi la règle numéro 1? Il avait dit, déjà, c'est vrai qu'on peut être perdu avec tout ça, donc manger des aliments bruts, c'est une super règle pour débuter, quoi.
C'est ce que je conseille avant d'éliminer quoi que ce soit de son alimentation, de faire des régimes bizarres, des choses comme ça, c'est la première chose que je recommande.
Manger brut, donc tout ce qui n'est pas transformé, donc fruits directement non mis en jus, les légumes.
Mais c'est un détail, ces histoires de jus. On n'a pas une alimentation qui est constituée de jus.
Ça serait marrant.
Il
y a de nouveaux trucs là avec les feeds, les boissons qui sont. Tu sais, c'est des boissons qui contiennent tout. Et en fait, tu bois ton repas.
C'est pas nouveau. Il y a une vidéo sur ma chaîne. J'ai fait ça il y a au moins 2 ans ou 3 ans.
Je suis en retard. Moi, j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps. Enfin, je sais que ça existe depuis un petit moment, mais j'ai pas dû voir la vidéo. Celle que j'avais adorée, par contre, c'était. C'était sur le documentaire sur Netflix. Ça, là, je l'avais adoré.
Ah oui, d'accord.
Ok, donc voilà, juste pour finir, et puis après, on va passer aux trois questions de fin. Les produits laitiers, pareil, c'est quelque chose, c'est pas interdit, c'est pas à consommer tout le temps, c'est encore une fois un équilibre.
Alors, c'est un peu comme pour le gluten, il faut quand même faire l'essai pour voir si on a un problème avec les produits laitiers ou pas. Ça, c'est quand même important. Après, il y a des produits laitiers qui sont vraiment pas recommandés chez les adultes. C'est la crème et le lait. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent du lactose et que un adulte normalement constitué ne digérera pas bien ces aliments-là. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Si, je digère bien, mais enlevez-les, vous allez voir que vous digérez mieux. » Donc, ça, c'est clair.
Ça, c'est parce qu'on n'a pas l'enzyme lactase, je ne sais pas quoi, hein, ou alors qu'on l'a en très faible quantité. Ouais, ça. Et d'ailleurs, les Asiatiques n'ont quasiment aucune enzyme, et ce qui fait qu'ils sont encore plus sensibles, intolérants aux produits laitiers, au lait en tout cas.
C'est normal, parce que c'est une enzyme en fait qui s'exprime aussi en fonction de son environnement. C'est-à-dire que cette enzyme est là pour objectif de digérer le lactose qu'il y a dans le lait maternel quand on est bébé. Donc, quand on est bébé, on digère très bien tous les laits grâce à ça. Et puis après, à partir du sevrage, 3, 5 ans à peu près, l'activité de la lactase, elle va diminuer. Donc ensuite, ce qui va maintenir l'activité de la lactase, c'est la consommation de lait. C'est-à-dire que si tu continues de boire beaucoup de lait, tu vas continuer de bien digérer le lait.
Même du lait de vache.
Ouais. Je parle juste au niveau digestif, hein, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas te provoquer de problèmes de santé par ailleurs si tu es sensible, mais en tout cas au niveau digestif, c'est comme ça que ça se passe. Et donc voilà, par contre, si tu te mets à en consommer un peu moins dans une période de ta vie, après la lactase, elle attend que ça en fait, d'arrêter de fonctionner ou très peu fonctionner. Et du coup, à partir de là, tu vas commencer à beaucoup moins bien digérer. Et puis chez certains adultes, même la lactase peut s'arrêter de fonctionner un peu toute seule, sans crier gare, parce que la flore intestinale, par exemple, va être un peu fragilisée à la suite d'un traitement antibiotique, parce qu'il y a eu une période de stress, etc. Parce qu'encore une fois, comme je viens de le dire, cette lactase, elle n'attend que de s'arrêter de fonctionner à l'âge adulte. Elle est chez aucun être humain, elle est pas prévue pour continuer de fonctionner aussi longtemps, on va dire.
Ok. Et tout ce qui est les fromages, tout ce qui est fermenté, par exemple, ça comporte beaucoup moins de lactose, c'est ça? Et donc, on est plus, on peut en manger plus facilement.
C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, en tout cas, niveau digestif. Les fromages, les yaourts aussi, sont plus intéressants. Pour les probiotiques, c'est pas vraiment des sources importantes de probiotiques.
Beaucoup de fromage pour avoir un super.
Non, les quantités qu'il y a dedans sont pas forcément suffisantes, mais en tout cas, c'est pas forcément mauvais. Après, il faut éviter d'en manger trop aussi, parce que la problématique du fromage, c'est que c'est très riche en calcium et en phosphore. Et si l'alimentation, par ailleurs, n'est pas qualitative, c'est-à-dire que elle est trop pauvre en fruits et légumes, par exemple, bah, ça peut provoquer un déséquilibre de la balance potassium-phosphore et calcium-magnésium, ce qui va favoriser les calculs rénaux, les tendinites, les problèmes cardiovasculaires, etc. Enfin voilà, de façon globale, c'est pas bon d'avoir un déséquilibre en faveur du phosphore.
Ok, donc pour un fromage, un fruit, comme ça on équilibre bien.
Ouais, je saurais pas dire la proportion, mais
non, bon. Je plaisante.
Par exemple, faut pas en manger à tous les repas, quoi. Ça, c'est clair que ça va pas. Si vous en mangez, c'est à un repas par jour.
Du fromage, hein. Et une portion, on est d'accord, pas le camembert en entier.
Ouais, on est d'accord.
et pour les probiotiques, est-ce qu'on va se complémenter, on peut se complémenter en probiotiques? Est-ce que on est obligé? Est-ce que
Bah non, il faut en avoir besoin, sinon ça sert à rien.
Et alors, comment c'est qu'on peut en avoir besoin?
C'est compliqué, ça dépend un peu du problème, mais je dirais que déjà si on a des problèmes digestifs qui ne passent pas, même en améliorant l'alimentation, là il faut prendre des probiotiques, ça va être bien utile. Si par exemple vous devez avoir un traitement antibiotique, il faut prendre des probiotiques pour éviter de trop détériorer la flore intestinale. Voilà, ça c'est l'utilisation basique, c'est celle-ci.
Et est-ce qu'il faut les associer à des prébiotiques? J'ai entendu ça, que c'était très important, pré- et probiotiques en même temps, sinon c'est quasiment inutile.
Non. C'est bien qu'il y en ait dans le produit, mais c'est pas indispensable qu'il y en ait. En fait, s'il n'y en a pas, avec une alimentation normale, vous avez des prébiotiques dans tous les fruits et légumes. Ce sont les fibres, en fait, hein, qui vont nourrir les bactéries. Donc, c'est pas obligatoire, c'est pas rédhibitoire pour un complément alimentaire de pas en avoir. C'est bien qu'il y en ait, mais c'est pas obligatoire.
Bon, super. Eh ben, ça nous conduit à savoir un petit peu plus ce qu'il faut faire. Le pire, c'est que j'ai encore beaucoup de questions. Écoute, moi, ce que je te propose.
Et je vois l'heure qui.
Oui, l'heure qui défile.
Hein, on s'était mis d'accord ensemble pour les auditeurs que malheureusement je ne pouvais pas rester trop longtemps.
Qu'on ferait 4 heures d'épisode. C'était pas ça qu'on avait dit.
Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, Jérôme, c'est si les internautes sont intéressés, on peut peut-être faire un deuxième rendez-vous, peut-être plus approfondi sur des questions particulières de nutrition, les compléments alimentaires, ou je ne sais pas.
C'est exactement ce qu'on va faire et ce que je voulais te proposer, c'est que j'ai d'autres questions qui concernaient beaucoup plus les compléments santé, tout ce qui est le rapport au sport aussi, à la performance au sport, au sportif. Donc, on y reviendra sur un autre épisode. Est-ce que ça te dit?
Eh ben écoute, moi je suis partant, mais en fonction de ce que disent les gens, je trouve. Hein, je pense que c'est eux qui ont le pouvoir de voter.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ils vont dire s'ils ont envie d'acheter ou pas. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que pour garder le suspense le plus longtemps, les trois questions de fin que j'ai l'habitude de poser, je te les poserai une fois prochaine, si fois prochaine il y a. On va rappeler simplement où c'est que les gens peuvent te retrouver, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur Internet. S'ils veulent te suivre, on en apprend plus sur toi.
Tu veux le faire ou tu veux que je le dise?
Oh ben, je te laisse me le dire.
Eh ben, écoutez, vous tapez mon nom sur Facebook ou sur Instagram. Vous allez avoir deux pages où je publie toute l'actualité de mon site internet, julienvenesson.fr, où il y a de l'actualité plusieurs fois par semaine en nutrition. Voilà. Sinon, mon laboratoire de compléments alimentaires, c'est unae.fr, unae.fr. Et puis mes livres sont disponibles en ce moment pas dans les librairies parce qu'elles sont fermées, mais sinon normalement ils sont disponibles dans n'importe quelle librairie, puis on trouve aussi sur Amazon, Fnac, Cultura, enfin voilà, tous les sites de vente de bouquins.
Parfait. Eh ben, c'est très clair. Je laisserai les liens dans la description de ton site web, de tes réseaux et de ton site de compléments également, comme ça les gens ils pourront cliquer dessus et s'y rendre directement pour aller creuser le sujet.
Ça marche.
Julien, je te remercie d'être passé. J'espère que cet épisode va résonner auprès des auditeurs pour qu'ils tous ils réclament un épisode numéro 2. Je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu. J'ai traîné, mais c'était très tentant de continuer à te poser plein de questions. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter avant qu'on se quitte?
Bisous.
Parfait, je te remercie, je te dis à bientôt.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis vous le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.